coupe.
Toujours à l'écoute du réseau FM Plus sur le 91 MHz et sur l'agglomération Montpellier, le 103.1 sur l'agglomération nîmoise. Toujours en compagnie de Michel Théron, méandre de l'amour, Eros et Agapé. Dans la première partie, nous avons abordé la thématique du totalitarisme d'Eros. Et là, on va aborder une nouvelle version de ces méandres, enfin une rive, on va s'arrêter à une rive de ces méandres, désir et perversion. Alors, j'ai hâte de vous entendre sur le désir et la perversion.
Oui, d'abord, cette belle chanson d'Edith Piaf nous montre bien que c'est la femme qui incarne Eros. Hein. Je disais au début, je rappelais la phrase de Hegel, c'est l'éternelle ironie de la communauté, que m'importent les lois sociales, etc. L'essentiel, c'est que nous nous aimions. Hein. Donc, les femmes font voler en éclat toute loi. Ce sont des antinomistes. Vous rappelez, Redouane, dans notre série d'émissions sur les hérésies, nous avions défini par antinomistes les gens qui pensaient que la loi volait en éclat devant l'amour. Vous voyez, l'antinomisme. Bon, alors c'est un très bel hymne, hein, ou une très belle hymne, si c'est religieux. Hymne est féminin, un monde religieux. Cet hymne à l'amour et finalement bon, nous reviendrons sur la différence masculin-féminin. Il me semble que seule une femme peut parler de l'amour avec cette force. Alors, désir et perversion, hein, c'est un sous-chapitre de mon livre, toujours dans la première partie, Eros ou l'amour de désir. Je partirai d'une phrase de Pascal qui nous dit: on n'aime jamais personne, on aime seulement des qualités. Alors, s'agissant d'Eros, il me semble que cette phrase est très juste. Si, en effet, j'aime quelqu'un pour sa beauté, dans le fond, ce n'est pas lui ou elle que j'aime, mais seulement sa beauté. Et si cette beauté vient à disparaître inopinément, par exemple après un accident, une maladie, etc., ou même simplement à cause des injures du temps qui passe et qui détruit toute chose, hein, que resterait-il de mon amour? Alors vous voyez, la perversion de l'amour Eros consiste ici en ce qu'on disjoint une apparence visible et l'essence d'un être, ce qu'il est au fond de lui-même, pour ne privilégier que la première, vous voyez. Par exemple, avec le temps, le visage lisse du début est creusé de rides, vous voyez. Hein. Il y a une phrase de Camus que je rappelle. Ici, Camus disait « Aimer quelqu'un, c'est accepter de le voir vieillir » et il ajoutait « Je ne suis pas capable d'un tel amour ». Pourquoi disait-il cela? C'était un méditerranéen, il avait passé son enfance en Algérie, hein, et donc il était très amoureux de la beauté en général, la beauté de ce climat, bon. Et alors, il reconnaissait tout à fait honnêtement qu'il était incapable d'aimer quelqu'un en le voyant vieillir, vous voyez, hein. Alors, en fait, ce qu'il aimait et ce que l'on aime dans ce cas-là, c'est la beauté, ce n'est pas un être, hein, ce n'est pas ce qu'il y a dessous, hein. Je vais prendre un exemple, Redouane, tiré du roman de Tolstoï qui s'appelle Anna Karénine, hein. Alors, la première fois qu'Anna Karénine voit le prince Vronsky, elle s'enflamme instantanément, et pourtant elle est mariée, bon, etc., hein. Elle s'enflamme, hein. Alors, pourquoi? Parce qu'elle est subjuguée par sa beauté. Elle est sidérée. Nous avons parlé de la sidération. Alors, supposons, là, ça va être assez amusant, Redouane, que à ce prince Vronsky soit enlevé d'un seul coup ses 8 incisives. Hein. Qu'est-ce qui resterait de l'amour d'Anna? Hein. Le poids de ces 8 incisibles, incisives que l'on peut calculer à raison de tant de grammes chacune. Hein. Comme on dit familièrement, cela ne pèse pas lourd, vous voyez. Hein. C'est en cela qu'il y a perversion. Hein. Bon, est-ce qu'on pourrait au moins peut-être en rester à l'impression causée par la contemplation d'un beau visage et faire intervenir très tôt le langage, l'échange verbal, par exemple dire, parler avec quelqu'un. On éviterait la seule sidération par la beauté extérieure, par l'apparence. Hein. Les contes de fées disent bien que un beau visage peut se mettre à cracher des serpents. Et effectivement, il y a des êtres dont la conversation est le meilleur antidote de leur beauté. Comme on disait autrefois, si l'œil d'Irma parfois nous blesse, souvent son entretien guérit. Hein. Et aussi, il y a des gens qui se contentent de parader en société avec une belle personne à leur bras, de préférence muette, une potiche en quelque sorte, comme objet de valorisation personnelle. Ils sont prisonniers du regard d'autrui, ils sont évidemment superficiels. On en connaît des gens comme ça, qui ne s'intéressent pas au langage, à l'échange entre deux personnes, etc. Hein. Alors, vous voyez, Redouane, je pense de plus en plus que ce qui fait l'être humain, c'est la parole. L'humanité de net, c'est la parole. La possibilité de l'échange, d'échanger des mots avec quelqu'un. Hein. D'ailleurs, on le disait, les Grecs le disaient, l'homme est un zoon logon ekon, c'est-à-dire un animal possédant le logos. Hein. Le logos est à la fois la parole et la raison. On traduit en latin par animal rationale, animal raisonnable. On peut traduire aussi par animal loquens, c'est-à-dire un animal qui parle. Je pense que vous en serez d'accord, hein, Redouane. L'important, c'est de parler. Or, la logique d'Eros, poussée à son point extrême, exclut totalement le langage, exclut totalement la parole. Elle est refusée, cette parole, par exemple, lorsque le narrateur, dans le roman de Proust, Albertine disparue, possède, entre guillemets, seulement lorsqu'elle dort. Quand Albertine est éveillée, elle lui résiste parce qu'elle est différente de lui. Mais quand elle est endormie, elle lui est enfin soumise. Alors je vais lire ce passage, il est très très impressionnant et il montre à quels abîmes de perversion peut conduire Eros. Hein. Étendu de la tête aux pieds sur mon lit, dans une attitude de naturel qu'on n'aurait pu inventer, je lui trouvais, à Albertine, l'air d'une longue tige en fleurs qu'on aurait disposée là, et c'était ainsi un effet. Le pouvoir de rêver, que je n'avais qu'en son absence, je le retrouvais à ces instants auprès d'elle, comme si, en dormant, elle était devenue une plante. Par là, son sommeil réalisait, dans une certaine mesure, la possibilité de l'amour. Seul, je pouvais penser à elle, mais elle me manquait, je ne la possédais pas. Présente, je lui parlais, mais j'étais trop absent de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait, je n'avais plus à parler, je savais que je n'étais plus regardé par elle, je n'avais plus besoin de vivre à la surface de moi-même. En fermant les yeux, en perdant la conscience, Albertine avait dépouillé, l'un après l'autre, ces différents caractères d'humanité qui m'avaient déçu depuis le jour où j'avais fait sa connaissance. Elle n'était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux, des arbres, vie plus différente de la mienne, plus étrange, et qui cependant m'appartenait davantage. Son moi ne s'échappait pas à tout moment, comme quand nous causions par les issues de la pensée inavouée et du regard. Elle avait rappelé à soi tout ce qui, d'elle, était au dehors. Elle s'était réfugiée, enclose, résumée dans son corps. En le tenant sous mon regard, dans mes mains, j'avais cette impression de la posséder tout entière, que je n'avais pas quand elle était réveillée. Sa vie m'était soumise, exhalait vers moi son léger souffle. Alors voyez, je viens de citer exprès cette longue scène impressionnante, car elle prétend nous donner, comme le dit Proust, rien de moins que les conditions indispensables à, je cite, « la possibilité de l'amour ». Fin de citation, voyez. En fait, nous le verrons ultérieurement et heureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces modalités. Mais ce texte expose très lucidement et très crûment où peut mener Eros si on le pousse à ses extrêmes conséquences. Le désir de captation, Eros est un amour captatif, de possession, aboutit tout naturellement au meurtre de son objet. Et toute vie humaine doit lui être arrachée, doit être déniée. Ainsi, Albertine est végétalisée, elle devient une plante. Alors on pourrait dire qu'une plante encore vit, elle vit, hein, bon. Mais en définitive, on n'aime bien que des morts, car ils ne nous résistent pas. Et c'est pourquoi la perversion qui vous intriguait, Redouane, vous étiez intrigué par cette idée de perversion dont je parle, cette perversion va ici symboliquement jusqu'à la nécrophilie, c'est-à-dire aimer un cadavre, en quelque sorte. Alors on me dirait, mais Albertine ne fait que dormir. Mais il y a un adage latin selon lequel le sommeil est l'image de la mort. Hein. Somnium est quasi mortis imago, vous voyez. Pensez aussi aux Belles endormies de Kawabata ou au film Sleeping Beauty de Julia Lake qui est sorti en 2011. Comme si le prince ne devait pas réveiller la belle au bois dormant pour continuer à la voir tout entière pour lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Redouane. C'est à la fois juste dans la logique d'Eros et très monstrueux, ça, hein, regarder un être qui dort. Et en plus, c'est très, très violent, hein, violent, E avec un E et violent avec un A. C'est un viol, en quelque sorte, non?
Oui, parce que on n'est pas dans la confiance. dans le sentiment du partage. C'est la peur de la perte de l'autre. Et tant qu'il est immobile, à merci de mes sentiments, oui, donc c'est inquiétant.
Ah oui, oui, absolument. Il n'y a pas cet échange qui fait l'humanité. Hein. Quand elle était présente, je ne l'aimais pas, dit Proust, ou bien j'étais mal à l'aise. Quand elle est absente, réfugiée dans le sommeil, alors je l'aime vraiment. On avait parlé du rapport entre le désir et l'absence. Hein. Le désir suppose ou postule l'absence de son objet. Hein. Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve. Vous voyez ce que dit Hippolyte à Aricide dans Phèdre de Racine.
Mais c'est un peu ce que vous dites, ce que vous écrivez d'ailleurs dans le livre, c'est endormi et lui est enfin soumise. Et je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance. Ça devient une marionnette, je peux en faire ce que je veux.
Exactement, comme une espèce de poupée, poupée de son, de chiffon, hein, voilà, on en fait ce qu'on veut. Vous savez, Proust, ce n'est pas que l'écrivain des aubépines en fleurs, des petites madeleines, un écrivain un peu innocent et naïf, pas du tout. Hein. Pour avoir écrit comme il l'a fait si froidement le texte que je viens de lire, aussi parfaitement monstrueux qu'absolument logique, il faut avoir bien exploré les gouffres où peut mener Eros. Hein. Et ce n'est pas pour rien que Georges Bataille, dans son livre « La littérature et le mal », un livre sulfureux, comme le dit le titre, a intégré Proust. Il pourra en faire la matière d'un de ses chapitres, vous voyez. Alors, regardez quelqu'un qui dort, je disais c'est un viol, hein, parce qu'on investit l'intimité d'autrui. Et j'imagine la réaction de confusion d'abord, puis de colère, qui pourrait s'emparer de celui qui s'apercevrait, ou de celle qui s'apercevrait, avoir été ainsi victime d'un voyeurisme si indiscret. Alors, vous savez que le voyeurisme a fait la matière de films au cinéma, comme Peeping Tom, un film de Michael Powell, sorti en 1960, dont le titre français est Le Voyeur, ou même encore chez Hitchcock, le film de Fenêtre sur cour, sorti en 1954, hein, où il s'agit d'épier ce que font les voisins, vous voyez. Donc, il y a là-dedans une tendance que je dirais réifiante. Qu'est-ce que ça veut dire, réifier? Réifier, ça veut dire chosifier. C'est transformer autrui en une chose, en quelque sorte. Donc, c'est terrifiant. Et pourtant, c'est la logique d'Eros. Hein. Le propre de la perversion, Redouane, il me semble que c'est de séparer une personne d'elle-même pour n'en retenir qu'un aspect, un seul mode d'être, ou même un seul objet, comme ça se trouve aussi dans le fétichisme. Hein. Le fétichisme, voyez par exemple les films de Buñuel qui jouent souvent sur le fétichisme, par exemple le journal d'une femme de chambre qui est sorti en 1964 d'après le roman d'Octave Mirbeau. Hein. Il s'agit d'un homme âgé hein, qui aime la bottine hein, de cette femme de chambre, la chaussure. Hein. Bon, c'est ça le fétichisme. Et ici la fantaisie n'a aucune limite et on peut tout collectionner. Hein. On peut collectionner des chaussures, des pièces de vêtements, etc. Et il y a même au Japon un marché des petites culottes usagées qui sont portées par les collégiennes, vous voyez. Hein. Donc, je vous vois secouer la tête. Et donc, vous voyez, c'est ça le voyage. Quand vous qui voyagez beaucoup, hein, tout est possible. Hein, tout est possible. Mais comment dire est-ce que c'est innocent? Non, il y a dedans, derrière, le danger qui est le refus de tout échange, voilà, le refus de tout, de tout dialogue. Hein. Et ça me semble très très grave. Hein. De même si on vous photographie à votre insu, c'est un viol. D'ailleurs, l'expression le dit bien. C'est captatif. On dit prendre en photo. Vous voyez, prendre, to catch, prendre. Hein. Donc, ou même on dit tirer. Alors, tirer, c'est tuer, tout shot. Hein. Tout shot. Voilà. Tuer l'autre.
Je vais te tirer le portrait.
Ouais, tirer le portrait. Donc, c'est tuer ou prendre. C'est... Alors, finalement, c'est cette image de la mort hein, qui est désirée relativement à l'objet du désir. C'est quelque chose d'abyssal et de terrifiant. On couche toujours avec les morts. Alors, j'ai choisi comme deuxième pause musicale une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Pépé, et où à la fin, répétée quatre fois, il y a cette expression « on couche toujours avec les morts ». Thank you.
T'avais les mains comme des raquettes, t'étais. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé, pépé, pépé. T'avais les yeux comme des lucarnes, pépé. Comme on en voit dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange pour regarder la nuit des autres, comme on regardait un chimpanzé chez les ferrés. Pépé. T'avais le cœur comme un tambour, pépé, de ceux qu'on voile le vendredi saint vers les 3 heures après-midi pour regarder Jésus machin soufflé sur ses 33 bougies, tandis que toi t'en avais 8. Le 7 avril de 68, pépé, pépé. Je voudrais avoir les mains de la mort, pépé, et puis les yeux, et puis le cœur, et m'en venir coucher chez toi, ça changerait rien à mon décor. On couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts.
Méandre de l'amour, Eros et Agapé, désir et perversion, c'est la troisième partie de notre émission. C'est très macabre.
Ah oui, Ferré, justement, dans sa chanson, évoque la mort d'un animal, hein, donc pour lequel il avait un amour comme il aurait eu pour une personne humaine. Hein. Et alors, ce qui me frappe, c'est la fin. On couche toujours avec les morts, qui répétait 4 fois, je crois. Hein. Effectivement, il y a là une ambiance morbide, hein, ça c'est sûr. Mais d'un certain point de vue, et j'ai choisi dans ce livre, vous voyez Redouane, je le dis souvent, de ne rien condamner. Hein. D'un certain point de vue, il y a une logique là-dedans, hein, l'immobilisation. D'un être dans la mort fait qu'il ne nous résiste plus. La mort est ce qui transforme la vie en destin. Je crois que c'est Malraux qui disait ça. Hein. Donc, finalement, c'est comme l'arrêt sur image au cinéma. Hein. La chose qui bouge, hein, l'image bouge, et puis arrêt sur image. Alors, finalement, cela immobilise, cela éternise, cela conjure le temps. Je pense qu'il ne faut rien condamner. Vous savez ce que dit Shakespeare dans Hamlet, hein, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que toute votre philosophie n'en pourrait rêver. Donc il y a une grande profondeur et une grande lucidité dans cette phrase qui est prononcée par Hamlet lui-même. La pièce est acte 1, scène 5. Hein. Alors la leçon à tirer de cela, c'est celle d'un grand scepticisme et d'une grande tolérance. Tout est possible à l'être humain. Et il n'y a rien de si bizarre qu'il ne puisse vouloir expérimenter, il n'y a aucune fantaisie qui ne puisse l'attirer. L'être humain peut même vouloir volontairement s'avilir, entre guillemets, hein, jusque dans la prostitution, comme il se voit dans Belle de jour, qui est un roman de Joseph Kessel et un film de Buñuel, qui est sorti en 1967. Donc l'héroïne aime trop, entre guillemets, son mari, en l'espèce au-delà du plaisir, hein, c'est-à-dire d'une façon trop idéalisée. Alors pour cette raison, elle est sexuellement frustrée et elle va chercher le plaisir ailleurs. Hein. Donc aucune limite n'existe, semble-t-il, au fantasme dont l'être soit capable. Il serait absurde de condamner ces fantasmes a priori au nom d'on ne sait quelle instance morale. Comme disait Terence, un poète latin, hein, « Je suis homme et rien d'humain ne m'est étranger. Hein. »« Homo sum et nihil humani, ame alienum puto » en latin. Alors bien sûr, Edouane, et là on va en tomber d'accord, l'essentiel dans ces comportements que l'on dit déviants, l'essentiel est de ne pas faire de mal à l'autre contre son gré, ça c'est évident, comme dans le cas du sadisme ordinaire par exemple, ou même du simple voyeurisme, qui est symboliquement meurtrier, effectivement, le voyeurisme. Hein. Mais enfin, pour s'en tenir au simple fétichisme, je ne sais pas pour vous Edouane, mais moi... il me semble que tout amoureux n'a à garder des lettres, hein, ou bien une mèche de cheveux, ou bien une photographie, la photographie qui par définition échappe au temps puisqu'elle l'immobilise, ou un objet quelconque relatif à l'être aimé, dans sa boîte à secrets, dans ce qui est son reliquaire personnel. Hein. Reliquaire, c'est-à-dire ce qui reçoit les reliques. Alors, je sais bien, Edouane, et là, je parle sous votre contrôle, je sais bien que Calvin a écrit un traité des reliques, pour se moquer des reliques. Hein. Effectivement, si on faisait le compte de toutes les reliques religieuses qui existent, ce serait impossible. C'est un livre plein d'humour, hein, et que j'aime beaucoup. Mais enfin, est-ce que c'est pas humain de garder des reliques, hein? Comme le dit profondément Valérie, l'esprit n'est pas si pur que jamais il idolâtre. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Redouane? Regardez, vous avez même des photos des vôtres sur votre bureau, etc.
Oui, tout à fait. Oui, donc, c'est se rattacher à une mémoire. C'est le sentiment que j'ai. C'est vraiment être... être en relation. C'est marquer l'espace, le temps de ces pages d'histoire qui sont déjà tournées et en même temps qui font partie de nous.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il ne s'agit pas de fétichiser le portrait ou la photographie.
Non, pas de sacraliser.
Pas de sacraliser, c'est ça. L'esprit de Calvin a été justement contre toute sacralisation du matériel, des choses matérielles. Mais enfin, il me semble que, autrefois, on gardait une mèche de cheveux dans des médaillons, hein, vous voyez. Donc, voilà, pour garder les cheveux, un médaillon, etc. Pourquoi pas? Alors, j'ai choisi en dernière chanson... une chanson que j'aime beaucoup, hein, qui peut paraître très légère et qui pourtant a une très grande profondeur. Je dirais en quoi elle est profonde au moyen de quelques paroles après la diffusion de cette chanson. Il s'agit de la chanson de Georges Brassens, « Le nombril des femmes d'agents ».
Voir le nombril de la femme d'un flic n'est certainement pas un spectacle qui, du point de vue de l'esthétique, puisse vous élever au pinacle. Il y eut pourtant dans le vieux Paris un honnête homme sans malice, brûlant de contempler le nombril de la femme d'un agent de police. Je me fais vieux, gémissait-il, et durant le cours de ma vie, j'ai vu bon nombre de nombrils de toutes les catégories. Nombril de fans de croque-mort, nombril de fans de bougnat, fans de jocrisse. Mais je n'ai jamais vu celui de la femme d'un agent de police. Mon père a vu, comme je vous vois, des nombrils de femmes de gendarmes. Mon frère a goûté plus d'une fois ceux des femmes d'inspecteurs, les charmes. Mon fils vit le nombril de la souris d'un ministre de la justice. Et moi, je n'ai même pas vu le nombril de la femme d'un agent de police. Ainsi gémissait en public cet honnête homme vénérable, quand la légitime d'un flic tendant son nombril secourable lui dit: je m'en vais mettre fin à votre pénible supplice. Vous faire voir le nombril enfin de la femme d'un agent de police. Alléluia, fit le bon vieux, de mes tourments voici la trêve. Grâce soit rendue au bon Dieu, je vais réaliser mon rêve. Il s'engagea tout attendri sous les jupons de sa bienfaitrice. Braquer ses yeux sur le nombril de la femme d'un agent de police. Mais hélas, il était rompu par les effets de sa hantise. Et comme il atteignait le but de 50 ans de convoitise, la mort, la mort, la mort le prit sur l'abdomen de sa complice. Il n'a jamais vu le nombril de la femme d'un agent de police.
Oui, alors, vous voyez, Redouane, j'ai choisi exprès cette chanson qui peut paraître très superficielle pour montrer que toutes les fantaisies humaines sont possibles, hein. On peut rêver de tout, hein. Voilà. Et en plus, ce nombril de la femme d'agent, c'est une transcendance pour lui. C'est la recherche essentielle de sa vie. Et qu'est-ce qu'une vie qui n'est pas orientée par un rêve, par une transcendance majeure? Alors si on trouve qu'il y a un décalage énorme entre ce qui est dit et puis l'idée de transcendance, etc., je répondrai en disant que il faut savoir rire et que les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux, vous voyez.
Le rire étant le propre de l'homme.
Voilà.
Hein, donc sinon on devient une bête.
Ouais, tout à fait.
Merci Michel, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, juste avant les vacances de fin d'année, et puis on se retrouvera avec tout le tonus que nous donnera l'étoile que nous aurons suivie en cette fin d'année. Merci, à la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir à tous.